la durée précise de la combustion et la quantité de cendres à prélever. Cette fois, ils les recueilleraient dans un récipient plus petit qu'une boîte à café. Ils choisirent une tasse, celle dans laquelle Loupé prenait son chocolat le matin et qu'elle avait laissée à la bicoque. Il y avait un second volet non négligeable aux dernières volontés de Loupé, la dispersion. Mais l'obtention de ces cendres cruciales fut elle aussi absente du rêve de Juan Diego. Non seulement les rêves accélèrent le cours des choses, mais ils sont aussi très sélectifs. Durant sa première nuit à l'Escondrijo, Juan Diego se leva pour aller aux toilettes. Il n'en garda aucun souvenir car il était encore en plein rêve. Il s'assit sur le siège pour pisser parce que ça faisait moins de bruit et qu'il ne voulait pas réveiller Dorothy. Mais il avait une autre raison de pisser dans cette position. Il avait vu son téléphone portable sur la tablette à côté de lui. Dans son rêve, il avait sans doute oublié que la salle de bain était le seul endroit où il pouvait le recharger. En effet, il n'y avait qu'une autre prise près de la table de nuit. Et Dorothy l'avait devancé. Elle était plutôt futée en matière de technologie. Pas lui. Il n'avait toujours pas compris comment fonctionnait un cellulaire. Pas plus qu'il n'était parvenu à se familiariser avec les options disponibles ou indisponibles, ces maudites options que tout le monde repérait si facilement et manipulait avec une fascination passionnée. Pour sa part, il n'y voyait rien de palpitant. À Iowa City, il ne s'était trouvé aucune jeune personne pour lui apprendre à se servir de son mystérieux téléphone, déjà passablement démodé. Pas moyen de mettre la main sur la photo prise par le jeune chinois dans le métro de Kowloon. Il avait beau dormir à moitié, être en plein rêve et de surcroît en train de pisser assis, la chose l'agaçait prodigieusement. Le train arrivait en gare, le jeune homme était pressé, il les avait pris au vol tous les trois, Juan Diego, Myriam et Dorothy. Lui et son ami avaient eu l'air de trouver la photo décevante. Elle était floue peut-être. Mais le train était là. Myriam lui avait repris le téléphone des mains et Dorothy, encore plus prompte, l'avait chippé à sa mère. Quand elle l'avait rendu à Juan Diego, il n'était plus en mode appareil photo. « Nous ne sommes pas photogéniques », avait dit Myriam au couple chinois qui semblait troublé par l'incident. Sans doute prenait-il d'habitude des photos de meilleure qualité. Et voilà que sur le siège des toilettes de l'Escondrijo, Juan Diego découvrait par hasard, et parce qu'il était à moitié endormi et en train de rêver, qu'il y avait une façon commode de retrouver la photo prise à la gare souterraine de Kowloon. Il avait involontairement effleuré un bouton sur le côté de l'appareil et aussitôt l'écran avait affiché l'icône appareil photo. Il aurait pu prendre un cliché de ses genoux nus, mais il avait aperçu l'option « Mes photos » et c'est ainsi qu'il était tombé sur celle de Kowloon. Le matin venu, il croirait avoir rêvé. L'image entrevue sur le siège des toilettes ne pouvait pas exister, tout bien considéré. Car la photo le montrait seul sur le quai de la gare de Kowloon. Myriam lui avait dit qu'elle et Dorothy n'étaient pas très photogéniques. Elle avait ajouté qu'elle détestait se voir en photo, tiens donc. Et pour cause, elle n'y apparaissait même pas. Pas étonnant non plus que les jeunes Chinois aient été si troublés à la vue du cliché. Mais à ce moment-là, Juan Diego n'était pas vraiment éveillé. Il était plongé dans le rêve et le souvenir les plus marquants de sa vie, l'épisode de la pincée de cendre. D'ailleurs, il n'aurait pas pu comprendre pourquoi Myriam et Dorothy n'étaient pas visibles sur l'instantané volé à la gare de Kowloon. Après avoir tiré la chasse d'eau en faisant le moins de bruit possible, Juan Diego passa sans le voir devant le fantôme anxieux posté sous le pommeau de la douche extérieure. Ce n'était pas le soldat que Dorothy avait vu un peu plus tôt. Celui-ci était vêtu de son treillis de combat, il avait l'air très jeune, encore imberbe. Dans la fraction de seconde qui avait précédé la dissipation du jeune fantôme, à jamais disparu au combat, Juan Diego était revenu dans la chambre. Il ne se souviendrait pas de s'être vu seul sur le quai de la gare de Kowloon. Le fait de savoir qu'il n'y était pas seul suffisait à le persuader qu'il avait probablement rêvé d'avoir fait ce voyage sans Myriam et Dorothy. Au moment où il se recouchait à côté de Dorothy, au moins avait-il le sentiment qu'elle était bel et bien là, le mot « voyage » lui inspira une association d'idées. Où avait-il mis le billet de métro pour Kowloon? Il était certain de l'avoir conservé pour une raison ou pour une autre. Il avait écrit quelque chose au dos avec le stylo qu'il portait toujours sur lui. Le titre d'un prochain roman, peut-être. Aller simple. Oui, c'était bien ça. Mais ses pensées, comme ses rêves, étaient tellement décousus qu'il avait du mal à se concentrer. Dorothy lui avait peut-être administré une double dose de bêta-bloquant. Ce serait une nuit sans sexe, une de celles censées lui permettre de rattraper la posologie. S'il en était ainsi, s'il avait pris une double dose de l'oppressor, qu'importait qu'il ait vu ou non le jeune spectre dans la douche extérieure. Aller simple. Ce titre semblait être celui d'un roman qu'il avait déjà écrit, pensait-il en replongeant au plus profond du rêve de sa vie. Car le mot « simple » pouvait certes signifier « unique », mais il pouvait aussi vouloir dire « primaire ». Puis, aussi brusquement qu'il s'était levé et recouché, Juan Diego cessa de penser. De nouveau, le passé reprenait possession de lui. Chapitre 30. Une pincée de cendre. Le rituel de la pincée de cendre que Loupé avait mentionné dans ses dernières volontés n'avait guère été empreint de spiritualité au départ. Outre ses démarches auprès des autorités mexicaines, frère Pépé avait consulté un avocat américain, spécialiste des questions d'immigration. La mention de tuteurs légaux n'était pas seule en jeu. Edward Pancho allait devoir parrainer Flore pour lui assurer une résidence permanente, disait Pépé le plus discrètement possible, de façon à n'être entendu que par les seuls intéressés. Naturellement, Flore réagit quand Pépé mentionna qu'elle avait un casier judiciaire, ce qui impliquait une nouvelle transgression des règles. « Je n'ai pas de crime à mon passif » protesta-t-elle. Elle avait seulement été arrêtée une ou deux fois par les forces de l'ordre de Oaxaca. Selon les rapports de police, il y avait eu deux passages à tabac à l'hôtel Somega. Flore reconnaissait qu'elle avait effectivement cassé la gueule à Garza. Cette fripouille de Mac l'avait bien cherchée. Et un autre jour, elle avait envoyé au tapis César, le larbin de Garza. Ces règlements de compte n'avaient rien de délictueux à ses yeux. Quant à ce qui lui était arrivé à Houston, l'avocat américain affirma à Pépé qu'on n'en trouvait nulle part la trace. Ce qu'on l'avait contrainte à faire sur la carte postale que Seigneur Eduardo conserverait à jamais au plus secret de son cœur ne constituait pas un délit au Texas, du moins. Avant de procéder à la nouvelle cérémonie dans l'église des Jésuites, il fallut porter une attention toute profane à la composition des cendres. « Qu'est-ce qui a été brûlé exactement, si je peux me permettre ?» demanda le père Alfonso au patron de la décharge. « Nous espérons qu'il n'y a pas de substances étrangères cette fois, » renchérit le père Octavio. « Les vêtements de Loupé, le cordon qu'elle portait autour du cou, deux clés, plus deux ou trois bricoles trouvées à Guerrero, » énuméra Juan Diego. « Des objets provenant du cirque ?» s'enquit le père Alfonso. « Vous savez, on les a incinérés sur le basurero, alors forcément il y a le tout venant, » répondit le jefe prudent. « Oui, oui, nous savons, » répondit vivement le père Octavio. « Mais ces cendres sont essentiellement composées d'objets qu'elles possédaient au cirque, n'est-ce pas ?»« En grande partie, » marmonna Rivera. Il évitait de mentionner le repère des chiots, où Loupé avait trouvé Blancsal tout près de la bicoque. Il y avait ramassé un autre chiot mort qu'il avait incinéré avec le reste. Vargas et Alejandra assistèrent à la cérémonie, comme il l'avait demandé. La journée avait mal commencé pour le médecin. L'infection mortelle de Dolores l'avait obligé à faire, auprès de certains services publics, des démarches dont il se serait volontiers passé. Le père Alfonso et le père Octavio avaient choisi l'heure de la sieste, mais nombre de sans domicile fixe, poivreaux et hippies, qui erraient habituellement dans le Socalo, venaient volontiers dormir dans les églises. Les bancs du fond étaient donc occupés par ces indésirables. C'est pourquoi les deux prêtres avaient souhaité